Azul, 101.1. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir, nous sommes le jeudi 12 décembre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Mardi dernier, dans la quotidienne, vous avez assisté à une visite sonore de la médiathèque François Mitterrand située au Relais de Carillon, ainsi que la présentation de l'exposition de gravures empreintes. Aujourd'hui, vous pourrez découvrir un peu plus en détail l'univers poétique des quatre artistes exposants, Thomas Godin, Quantz Guskim, Cinema de Leon Lucero, et Sandrine Perron. Thomas Godin, un des artistes, a également répondu à nos questions. Nous vous laissons découvrir son univers, sa technique et ses voyages en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, nous accueillons dans les studios de Radio U le groupe brestois The Mad Dogs. Ils ont sorti en cette fin d'année 2019 leur premier EP intitulé The Moonlight Sausage. Pour nous en parler ce soir, nous recevons les deux guitaristes, Thomas Bouexel et Yuen Sichjouan. Thomas Bouexel, bonjour.
Bonjour.
Yuen Sichjouan, bonjour.
Bonsoir.
Le nom de votre groupe, c'est The Mad Dogs,
ouais.
Littéralement les chiens fous. Pourquoi avoir choisi ce nom un peu étrange?
Oh, c'est une longue histoire.
Quelle est-elle?
Elle commence aux âges reculés auxquels je venais d'avoir mon diplôme. Et je suis revenu à Brest de mes études que j'avais fait. J'avais fini à Orléans. Et je suis revenu à Brest donc pour commencer à travailler, et la première entreprise à laquelle j'ai postulé, où j'avais fait un stage d'ailleurs à l'époque, m'a reçu en me disant « Écoutez, monsieur, on n'a pas besoin de chiens fous dans l'équipe pour l'instant. » Alors à l'époque, c'était sûrement une blague, mais sur le moment, je l'ai un peu mal pris, et je suis parti sans demander mon reste. Et des années plus tard, quand il est venu le temps de nommer ce projet, eh bien, c'était sur un parking pluvieux, les pieds dans une flaque de boue. On avait quelqu'un au téléphone qui nous demandait c'est quoi le nom de votre groupe. Et on en avait parlé pendant...
3 jours, non ?
Ouais, de bien trop longues heures au Tarahine. Et j'ai sorti ça parce que j'avais envie. Et c'est resté depuis. C'est un nom qui est assez court et qui nous tenait à cœur parce qu'on ne voulait pas un nom de 4 km. Bien qu'on avait des idées de nom de 4 km. Mais ouais, c'est un nom qui, mine de rien, assez raccourci, assez bisyllable, et ça nous allait bien. Et ça, c'était à peu près au milieu de toutes les envies qu'on avait, qui partaient dans plein de directions, mais on s'arrêtait là-dessus du coup.
Ça vous représente bien ce nom de groupe ?
Ah, plutôt, ouais.
Particulièrement certains soirs, ouais.
Et pourquoi avoir pris un nom en anglais ? Bah, vous l'avez un peu expliqué, mais vous auriez pu le transformer en français, non ? Vraiment rester dans cette...
Thomas, t'as...
J'ai pas trop réfléchi au sujet-là, non.
Bah, je vous avoue qu'on compose, en fait, et on écrit beaucoup en anglais. Enfin, on est 3 dans le groupe à écrire et composer. Et on compose, on compose en musique, je veux dire, mais on écrit intégralement en anglais ce qu'on écrit. Ce qui semblait donc assez naturel pour nous de suivre avec un nom en anglais.
Et comment, vous, personnellement, vous êtes arrivé à faire de la musique
Moi, j'ai commencé tout seul, en fait. Et puis j'ai rencontré Yuen à l'Horizon chez Kim, qui est un beau lieu de rencontre pour les personnes en tout cas. Et donc on s'est rencontré là au comptoir du bar, on a joué de la musique ensemble, on s'est un petit peu perdu de vue, on s'est retrouvé. Il venait d'arrêter un groupe, il voulait en monter un. Et donc il m'a proposé ce projet là. Et donc voilà, donc c'est un peu lui qui est au départ de tout ce projet des Mad Dogs, c'est lui qui a un peu réuni tous les musiciens.
Et vous, Yuen?
Ben, j'ai commencé la musique quand je voulais séduire des jeunes femmes isolées sur MSN par webcam. Ça a pas marché. Et puis j'ai persévéré.
Et ça a marché?
L'histoire ne le dit pas. Ouais, non, j'ai joué la batterie d'abord beaucoup. Et la guitare est venue en parallèle au bout d'un moment. Et au travers de tout le lycée et puis les études supérieures, ça m'a jamais vraiment lâché. Et votre retour à Brest, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant, enfin, en tout cas mettre au centre de pas mal de mes occupations. Et ça nous amène là aujourd'hui.
Et The Mad Dog, c'est un collectif de 4 musiciens. Mm-hmm. Depuis combien de temps vous jouez tous ensemble et comment vous êtes arrivés à tous vous rencontrer
On a commencé en 2017, si je ne me trompe pas.
Début 2018.
Début 2018, ouais. Donc voilà. Février. Donc, février 2018, après le groupe était au complet aux alentours de mars-avril 2018. Ouais. Et donc notre premier concert était en mai.
Exact.
Ouais, donc c'est le premier concert arrivé très vite. Hein. On a dû faire une ou deux répètes avec Ewan, le batteur, là. Donc on était un petit peu stress pour le premier concert. Et puis voilà, et puis on s'éclate tous les quatre ensemble. Et il y a un cinquième membre là qui a rejoint le groupe, qui est un ingé son, Ronan. Voilà, qui nous accompagne un petit peu partout aussi maintenant.
Qui est notre ingé son, il est à nous.
Voilà, on n'y touche pas.
Ça tombe bien car ce soir vous n'êtes pas venu les mains libres, vous êtes venu avec vos guitares dans les studios de Radio U. De quoi, si vous le souhaitez, nous jouer déjà un premier morceau en live pour les auditeurs et les auditrices de Radio U. Donc je vais vous installer Thomas et Ewen du groupe The Mad Dogs. Je vous rappelle d'ailleurs, vous êtes tous les deux membres du groupe The Mad Dogs qui a sorti en ce mois de décembre son premier EP intitulé The Moonlight Sausage. Si vous êtes prêts, vous pouvez interpréter le titre The Landmine de votre premier EP.
Qui est sur le EP ?
C'est ça.
Girl, dance your way into oblivion. I've got a life like a spooky train, and it's a shame, oh, and it's a shame, oh. Your eyes are a candy trail. Lead me way down underneath the tree.
Try to be wrong. My boss don't.
Merci beaucoup au groupe The Mad Dogs de nous avoir joué le titre Landmine de leur tout premier EP qu'ils viennent de sortir en ce décembre 2019. C'est vous qui le dites, continue sur Radio U et nous sommes toujours en compagnie des deux guitaristes Thomas et Yuen du groupe The Mad Dogs. Je laisse réinstaller dans le studio de Radio U. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver toutes les informations de ce groupe brestois sur leur page Facebook The Mad Dogs. Je le disais tout à l'heure, votre premier EP s'intitule Moonlight Sausage. Pourquoi avoir choisi ce nom d'album, d'EP?
Là encore, il y a une histoire intéressante.
Ouais, c'est comment dire, c'est un peu tous les rendez-vous d'après-répète qui se passent dans un bar qu'on aime bien au port là, et où on réfléchit très longtemps sur les noms de groupes qu'on pourrait avoir. Donc, Mad Dogs est arrivé assez urgemment. Et donc on réfléchissait un petit peu à un nom d'album quoi. Et on s'amusait avec des noms de saucisses.
Voilà. Alors cette histoire, c'est que
globalement c'est comme ça que ça s'est passé.
On a nommé notre association, donc l'asso qui soutient le groupe, The Flying Moonlight Sausages, parce que faudra demander au batteur quand le jour il sera là, mais et en fait le CD n'a pas de titre officiel, c'est-à-dire qu'il est... Le CD, il y a marqué The Mad Dogs dessus. Il n'y a pas de titre à part celui des chansons qui sont au verso. Mais les fichiers qui sont enregistrés sur le CD ont tous pour titre The Moonlight Sausages, après le underscore et le nom du morceau. Et ça vient du fait que quand on les a masterisés avec les gens avec qui on a bossé, donc Maël et Bastien, qu'on remercie d'ailleurs, qui ont fait un boulot assez exceptionnel sur les morceaux, ils nous ont demandé un nom, donc ils avaient le nom des morceaux, mais il leur fallait un nom de fichier, ils avaient besoin d'un autre nom, que je crois qu'aucun de nous quatre a vraiment percuté qu'il allait être sur le nom du fichier.
Non.
Et on m'a juste dit ça parce que c'est le seul autre en fait titre générique qu'on a par rapport au groupe, c'est le nom de l'association. Et donc quelqu'un sur la conversation a mis a répondu les Flying Moonlight Sausages, pourquoi pas. Et ils ont juste pris le truc pour argent comptant, et du coup ça se retrouve sur les chansons du CD quand on les ouvre dans un ordinateur. Ce qui est, mine de rien, assez logique, parce que c'est un nom qui nous a suivi d'après-répète en après-répète, qu'on a du coup casé comme nom d'assaut, et qui un peu est, d'une certaine façon, l'espèce de easter egg du CD, qui n'a pas de titre officiel, encore une fois, sauf si vous ouvrez les pistes dans un ordinateur et que vous regardez le nom des pistes. Elles commencent toutes comme ça. Donc on peut dire que c'est un espèce de titre d'album caché, quoi.
Et chez quel disquaire, on peut trouver votre premier EP, votre album?
Alors il y en a normalement disponible chez Bad Seed à Saint-Martin.
Ouais, à Place Guérin.
Voilà. Merci Musique.
Merci Musique, qui n'est pas vraiment un disquaire, qui est un marchand d'équipement de musique. Il y en a aussi Mouton à 5 pattes, qui est un autre établissement de la Place Guérin, qui est un bar. Il y en a à Mad Vintage, qui est un magasin de fringues, d'habits et de seconde main plutôt cool. Rutiam.
Il y en aura sûrement aussi chez Tiblert, qui est un disquaire de Quimper.
Ouais.
Et puis après, sur les merch, hein, quand on passera en concert. Donc je pense que le 18 janvier, on passe en fait à laver le voir pour les agiter du bocal. Je pense qu'on fera un petit merch du coup pour pouvoir acheter le P, quoi.
Et est-ce que vous vous souvenez du premier son que vous avez enregistré en tant que musicien individuellement, ou peut-être dans un autre groupe ou...
Wow. Alors pour ma part en studio, le premier du coup ça a été avec les Mad Dogs.
Ok.
Voilà.
Et vous, Yuen?
J'ai enregistré pas mal de trucs de façon personnelle, plus ou moins amateur, avec pas mal de monde. Des sessions d'enregistrement plus ou moins poussées avec des amis d'autres groupes et compagnie, mais pour le coup, l'enregistrement qu'on a fait cette fois-ci avec les Mad Dogs, et c'est le premier qu'on travaille avec cette qualité, cette attention-là, notamment au niveau du mix. Après, pour être vraiment exact dans ma réponse, je crois que un des premiers sons que j'ai enregistré tout court, c'est quand j'ai découvert le logiciel GarageBand, et je préfère pas qu'on l'écoute aussi.
Et sur votre EP, donc qu'on a là, il y a trois titres. Mm-hmm. Est-ce que parmi ces trois titres, il y en a quand même une que vous préférez vous individuellement à choisir?
Alors, pour ma part, ce serait plutôt Devious Send. Je trouve en fait pour moi c'est celle qui a été le plus travaillée au niveau des arrangements, tout ça. Mais après le truc, ce qu'on a fait en sorte, comme on est trois compositeurs quand même dans le groupe, on a fait en sorte que chacun ait son titre chanté. Donc après je pense que chacun a sa petite préférence par rapport
Et Devious Hand, c'est toi, Devious Hand, alors Thomas, c'est... qui l'a écrite.
Non, ça c'est Tony, du coup.
D'accord.
Qui n'est pas là ce soir. Mais okay. Du coup, c'est lui qui l'a écrite, toi.
Et vous, Yoann?
Ah, moi, c'est les trois préférées, enfin.
Elles sont toutes
intéressantes à leur façon. En effet, Devious Hand, on l'a mis en premier parce que c'est quelque chose qui a été assez vite un point de rendez-vous par rapport aux gens à qui on jouait notre musique. Parce que peut-être qu'on aura l'occasion de l'écouter à l'antenne. Il y a un gimmick de guitare dessus qui faisait marrer pas mal de monde, et je trouve que c'est devenu une espèce de private joke, c'est une blague entre nous et quelques copains. Après, les autres chansons ont toutes leurs moments qui me plaît. Mais ouais, elles sont représentatives de chacun des trois paroliers compositeurs du groupe. Et je dois dire que je me rappelle que Call It A Day, la troisième chanson, a suscité beaucoup, beaucoup de travail au niveau de la batterie en studio, qui a eu un gros travail de calage, de break et compagnie. Et le batteur a notamment pondu quelques belles, beaux morceaux là-dessus. Et c'est un bon souvenir pour moi. Ouais, allez, pour pas voter comme Thomas, je vais voter pour Call It A Day.
Et vous êtes beaucoup présent sur les scènes brestoises et finistériennes. Est-ce que vous avez quand même des dates en Bretagne ou ailleurs en France?
Bah, on cherche justement un petit peu. Là, on va recommencer parce qu'on est un petit peu en stand-by là, depuis quelques mois, depuis un ou deux mois là, et on se concentrait vachement sur la sortie de l'EP, etc. Et donc là, maintenant qu'on va avoir un peu plus de temps, on va se remettre donc au live, et sachant qu'on a fait quand même bien nos armes sur Brest l'année passée, et bah on va essayer quand même maintenant de partir un peu plus loin dans la Bretagne, vers l'Orient,
peut-être même. On a une date qui arrive à Plougastel, tu le disais Thomas tout à l'heure. Ouais. On joue à SPZ en avril prochain. On avait une date à Morlaix qui a malheureusement dû être reportée à 2020 pour des raisons indépendantes d'une volonté. Mais donc on est booké jusqu'en 2020.
Quelle popularité.
En 2021 même, parce que 2020 c'est bientôt, c'est l'année 40 d'après. On cherche en fait à jouer un peu plus loin que le Finistère Nord, où on a pu faire quelques concerts. On a été jouer à Quimper déjà avec la fête de la musique de l'année dernière, enfin de cette année en fait. Et on essaie de partir jouer un peu ailleurs que devant chez nous, quoi.
Et quel est votre meilleur, voire le pire souvenir de concert en tant que musicien, voire en tant que spectateur?
Il fait partie des pires et des meilleurs en fait. C'est le jour où j'ai fait tomber le guitariste des Psychotic Monks en lui faisant un croche-patte involontaire et qui s'est rétamé du coup sur la scène. Ça a dû lui faire bien mal. Et je l'ai vu en fait, parce qu'ils partaient dans la foule en fait pour faire leur show là, et mon pied était là par hasard. Et en fait, je les ai revus à la Bergerie Rock qui s'est passée au mois d'octobre. Et j'ai été m'excuser parce que j'avais jamais eu l'occasion de m'excuser. Donc j'ai été le voir pour m'excuser. Et lui, tout ce temps, pensait qu'il était tombé tout seul. Voilà. Donc c'était assez drôle. La scène était plutôt sympa à voir. Mais voilà, c'est une bonne anecdote de concert, ouais, de faire tomber un des artistes. On s'en veut un petit peu quand même.
C'est sûr.
Je sais que j'ai adoré autant que je puisse tous les concerts où j'ai eu la chance de jouer, que ce soit de la guitare ou autre chose. Mais il y en a un où c'était particulièrement dans le... Enfin, c'était surprenant parce que c'était pas prévu. On avait croisé... c'était au Binic de 2018 maintenant. J'étais avec ma copine et on croise un groupe que j'avais vu sur scène au Petit Minou... un peu de temps avant, les White Cowbell Oklahoma, en effet, qui sont des Canadiens. Et on se reconnaît, on discute. Et une chose en entraînant une autre, on s'est retrouvé sur scène avec eux le samedi soir. Donc ma copine est danseuse, elle est montée sur scène pour danser avec le groupe. Et moi, comme j'avais, j'étais assez content de parler au mec du groupe que je possédais une veste à paillettes, ils m'ont dit, prends ta veste à paillettes et viens faire un truc sur scène. On sait pas quoi, mais viens faire un truc. Et du coup, j'ai dû faire du tambourin sur scène. C'était au Binic, c'était le samedi soir sur la grande scène, et il y avait beaucoup plus de monde devant la scène que j'en ai vu dans toute ma vie. Et c'était assez ubuesque parce que j'étais avec mon tambourin, le groupe est en train de jouer, ils faisaient une reprise d'une chanson de Frank Zappa qui s'appelle Magic Fingers. Et on monte sur scène pendant l'espèce de longue période de solo psyché de la fin de la chanson, et je me retrouve à faire du tambourin devant tout ce monde-là. J'étais un peu comme un gland avec mon tambourin, et je me rappelle d'être vraiment en train de me dire, mais bordel, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. À peu près autant que le jour où j'ai commencé un morceau avec les guitares débranchées. Mais ça, j'en parle pas.
Et sur Brest, est-ce que vous avez un petit public assez régulier, fidèle, qui vient assez souvent voir vos concerts, ou le public variant selon des...
Bah, déjà, on a les copains qui viennent, toute la bande de potes déjà qui vient assez régulièrement quand même au concert, ce qui fait que ça remplit quand même pas mal les salles. Et après, je sais qu'il y a deux trois têtes, toi, que je vois régulièrement dans nos concerts, en tout cas pour ceux qui sont sur Brest. Mais quand je suis dans le concert, je suis pas tellement attention, je suis dedans, quoi.
Ouais, on n'a pas spécialement une feuille de présence où on coche ceux qui sont venus, ceux qui sont pas venus. Par contre, je me rappelle ceci d'avoir plusieurs fois vu, alors je saurais plus dire où, mais je crois que il me semble bien que c'était le même mec qui deux fois de suite m'a regardé à deux concerts différents et qui fait du air guitar, qui plie un peu ses genoux et qui fait ce truc Angus Young fait des fois dans un CDC, où ça, il fait l'espèce de marche où il tape son talon d'une jambe et de l'autre côté il fait du cloche-pied. Il faisait ça en regardant avec un air assez concernant, quoi. Et je l'ai vu plusieurs fois, je me suis dit, putain, ce mec nous suit. Et bon, je trouve ça super, hein, mais j'ai une certaine forme d'appréhension en me disant, est-ce qu'il va me suivre ailleurs que dans les concerts? Bon, j'ai peur de le recroiser en dehors, en fait. Mais s'il nous écoute, si tu m'écoutes, cher monsieur qui fait du Angus Duck Walk devant moi pendant les concerts,
reviens encore.
Reviens, on t'aime. C'est assez cool de te voir devant nous quand on joue. On t'aime.
Justement, est-ce que vous accepterez de nous jouer un deuxième morceau, Thomas et Yuen?
Mais avec plaisir.
Bah, super, je vous laisse vous installer. Les deux guitaristes du groupe brestois The Mad Dogs nous font le plaisir ce soir de nous jouer, s'ils le veulent, hein, le titre Ichimi. Ce titre n'est pas sur leur premier EP Moonlight Sausage. Si leur musique vous plaît et si vous voulez poursuivre cette expérience musicale chez vous, que vous êtes en train de vivre sur Radio U, eh bien, courez acheter leur CD de The Mad Dogs à Beatsides et à d'autres endroits. Le groupe est toujours en direct sur Radio U avec le titre Ichimi.
Scratch in the back of my head. I try to reach it with words that you left on a bed. I try to bang it on the wall, bang it right dead. Gets me looking for sand in the blood that I bled. Gets me making a man for the things I've said. There's an itch I can't scratch in the back of my head. It's my new little bed, and I keep it well fed. Rattlesnakes shaking tail, shaking me in the red. It's a good occupation that doesn't get me paid. It's a beautiful prison where to live in a shade. There's an itch I can't scratch in the back of my head. My body on fire and my skin turns red. Calls me a born liar, leaves me torn and fret. Turns my water to mud, poisons my bread. Turns my water to blood and I make what I made. I can't scratch in the back of my in the back of my head. I've been running scared. Gotta get gone, gotta get laid.
porte le titre Ichimi du groupe brestois The Mad Dogs. Un grand merci à eux d'avoir joué en live pour Radio U. Ils sont les invités de la quotidienne de Radio U, c'est vous qui le dites. En attendant que les deux guitaristes du groupe, Thomas et Iwen, se réinstallent dans le studio, je rappelle qu'aujourd'hui commence à Brest le festival No Border. Retrouvez toutes les informations de ce festival sur leur site festivalnoborder.com et dont Radio U sera en plateau vendredi de 16h à 18h en direct du festival. Thomas et Wen, comment définiriez-vous votre musique du groupe The Mad Dogs ?
Question suivante, s'il vous plaît. c'est malheureusement un jour que je ne faisais que repousser, mais il faudra qu'on en parle. C'est quelque part entre Brassens et Metallica, quelque part entre le Dale Cooper Quartet et les chants polyphoniques corses. C'est quelque chose qu'on compose à trois, en fait. Et depuis tout à l'heure, c'est un truc qui m'intéresse parce que vous dites les deux guitaristes. C'est vrai qu'on est venu avec deux guitares, mais il se trouve que dans ce groupe, on est trois guitaristes et trois bassistes et trois chanteurs. Et qu'on, en fait, on tourne à tour de rôle selon les chansons, selon qui les a écrites, qui les a amenées. Ce qui fait qu'on a une vision on a chacun notre vision de la musique, de ce qu'on aime jouer. Et donc, il y a en fait une fine de trois visions du rock'n'roll, on va dire, et plus, c'est la vision d'Ewen aussi, qui est batteur sur l'intégralité des chansons, qui se corrobore, du coup, c'est compliqué juste de mettre un ensemble de mots réduits là-dessus. On joue quelque part dans le rock'n'roll, on fait une version, on fait notre version du rock'n'roll, on la compose à 8 mains, du coup. Après, être plus précis que ça, il y a quelque chose du indie rock, il y a quelque chose du hard rock, il y a quelque chose du metal peut-être, il y a quelque chose du blues.
On peut dire au moins que ça punch.
Que ça punch, ouais. C'est vrai. Il peut le dire. C'est dur d'être plus précis que ça en fait. Écoutez le CD.
Et vous personnellement, dans votre jeu depuis toujours, quelles ont été plutôt vos inspirations musicales, Thomas?
Alors moi, première inspiration, c'est John Frusciante, voilà. Donc le guitariste en fait des Red Hot Chili Peppers, qui a fait une grosse carrière solo aussi, qui est pour ma part largement mieux que ce qu'il a fait, que ce qu'il a pu faire avec les Red Hot. Et après il y a du Arctic, il y a des trucs un peu plus stoner après derrière. Voilà pour ma part.
Et vous, Yuen?
Pareil, question suivante. Il y a plein de trucs. On pourrait vraiment passer des heures, mais j'ai été assez sensible à j'aime bien le boulot de la carrière solo de Slash, des Guns N' Roses, je trouve ça chouette. J'aime beaucoup ce temps-ci écouter Gvelertak, qui est un groupe norvégien qui a notamment ouvert pour Metallica récemment, qui a fait plusieurs passages qui est passé au Hellfest, qui a fait plein de trucs assez chouettes. J'ai beaucoup aimé écouter tout ce qui est Paco de Lucia, enfin plein de trucs en fait m'intéressent beaucoup, du jazz aussi que je découvre ce temps-ci, que je trouve ça génial. Là, tout récemment, Leonard Cohen a sorti un dernier album posthume qui s'appelle Thanks for the Dance, qui est pétri de guitares qui sont super belles et qui est pétri d'autres choses d'ailleurs, hein, en termes de voix et d'arrangement, mais ouais, en termes de musique, ouais, là on passe la soirée quoi.
Et d'ailleurs, quelle est votre dernière grosse découverte musicale, ou alors une petite pépite que vous avez découvert récemment?
Là, il y a un petit groupe français qui me plaît pas mal et qui passe bientôt d'ailleurs à Brest. Il y a Bandi Bandi, que j'aime bien. D'accord. Voilà la dernière, c'est à peu près ça.
Moi, c'est des Belges qu'on m'a fait découvrir. Le groupe s'appelle Brutus. Ils sont trois. C'est la batteuse qui chante et ça m'a foutu les larmes aux yeux. J'ai pas encore acheté de trucs, mais je me suis fait leur YouTubeographie au complet.
Enfin, à Radio U, on a toujours une petite dernière question à poser aux musiciens ou musiciennes qu'on rencontre. Quel type de poster vous affichiez dans votre chambre quand vous étiez ado, ou même moi, ou même maintenant
Maintenant, ça va paraître prétentieux, mais en fait, il y a une affiche des Mad Dogs dans mon salon. Donc, non, alors pour expliquer le truc, en fait, c'est que voilà, pour, on a fait une mini tournée en janvier de l'année dernière, enfin de cette année plutôt, 2019.
Ouais.
Et Yuen pour l'occasion a tiré des belles affiches en fait, parce que comme il est sérigraphiste aussi, graphiste tout court.
J'ai bossé avec une sérigraphiste.
Voilà. Mais voilà, non, en tout cas, il y a une affiche sérigraphique qui a été faite, qui est magnifique comme tout, et c'était plus voilà pour la beauté de l'affiche que pour le fait d'avoir une affiche des Mad Dogs dans le salon. Et sinon, bah, à peu près tous les, bah, dès que je bouge à des concerts, que je récupère des posters, des choses comme ça. Donc, il y en a beaucoup des copains aussi, voilà. J'ai Appaloosa dans mes toilettes, Sylvain, si tu nous écoutes.
Et bah, dans mon salon, j'ai pas mis de posters depuis longtemps. Par contre, j'ai mis des trucs. On m'a offert un tableau d'une danseuse de ballet à trois jambes que j'ai adoré. Et j'avais acheté une copie d'un tableau qui s'appelle L'enfant qui pleure. Je fais partie d'une vague de peintres anglais qui faisaient de la pintoche un peu émotionnelle avec des gros portraits d'enfants, pareil comme ça, où on aurait arraché leur gâteau, ils sont pleins de larmes, les joues rougies. Et j'ai ça dans mon salon qui fout une ambiance ultra. Enfin, plein de gens m'ont dit écoute, pourquoi tu le vires pas, tu sais ? Tu pourrais le mettre, je sais pas, genre dans une cheminée et allumer le feu en dessous. Et je trouve ça marrant parce que ce tableau, c'est un coup de tête. Un jour que je passais à Emmaüs, je me suis dit putain de merde, il me faut ce gosse en pleurs dans mon salon, c'est impératif.
C'est vrai qu'il est déprimant en tout cas. Ouais. Ça donne pas envie de le regarder trop.
Mais sinon, non, j'ai des plantes dans le salon.
Bah, merci beaucoup à vous deux, à Thomas et à Yuen, guitariste, chanteur et bassiste du groupe brestoise Mad Dogs. Merci d'être venu répondre à nos questions et de nous avoir fait un concert en live à deux dans notre studio. Je le rappelle, vous avez sorti votre premier EP intitulé Moonlight Sausage.
Titre caché.
À retrouver en vente à Bad Seeds, à Mercier Musique, à Mad Vintage, à d'autres endroits comme vous l'avez dit.
Et vous aussi, 5 pattes.
C'est, et vous mettez un 5 pattes et aussi directement peut-être sur votre Facebook en vous contactant.
Voilà, exactement.
Bien c'est sûr. Ça.
Les gens peuvent venir nous parler avec plaisir. Pas de soucis.
C'est vous qui dites continue avec le chanteur Achille Ouattara, trio, en concert ce soir au Vauban dès 22h en compagnie du curateur féminin Barba Loutig dans le cadre du festival No Border.
Serama una ke kutubu wa filila a filila sinte kono fe halaba de balo. C'est dur de comprendre que des hommes et des femmes arrivent à abandonner le fruit de leurs entrailles sur des tas d'ordures, souvent sous le soleil et la pluie, souvent. C'est pas facile, je le sais, mais pour tout ce que je ressens, je le dis car je sais qu'il y a un Dieu qui n'abandonne jamais.
C'était le titre Kanba Ira du chanteur Achille Ouattara qui sera en concert ce soir au Vauban à 22h pour le festival No Border. Mardi dernier, dans la quotidienne, nous avions assisté à une visite sonore dans la médiathèque François Mitterrand située au Relais Carillon, ainsi qu'à la présentation de l'exposition de gravures empreintes. Une exposition qui se termine d'ailleurs ce dimanche 15 décembre. Aujourd'hui, vous pourrez découvrir un peu plus en détail l'univers poétique des quatre autres exposants, Thomas Godin, Kwangus Kim, Chinema de Leon Lucero et Sandrine Perron. Thomas Godin a d'ailleurs bien voulu répondre à nos questions. Nous vous laissons découvrir son univers, sa technique et ses voyages. Un reportage d'Eva, reporter à Radio U.
Donc là, on a vraiment une diversité de styles. Ce qu'on va retrouver dans le café, c'est Sandrine Perron et son univers proche du quotidien. On a deux séries qui sont présentées ici. Une série qui s'appelle Bernique et comme son nom l'indique, représente ces petits crustacés qu'on trouve sur les rochers qui sont si symboliques de la Bretagne. Mais elle les représente d'une manière très synthétique, proche quasiment de l'abstrait, en donnant beaucoup d'importance au plein et au vide. Ce sont des œuvres en noir et blanc qui sont extrêmement synthétiques, qui peuvent faire penser à la fois à des berniques, à des montagnes, à des rochers, à des paysages. Elle présente également, cette artiste, une autre série qui est de la même manière tirée également de la réalité du quotidien. Ce sont ces petites robes, de fête, robes migraines, robes ruches, toujours avec du noir et blanc sur lequel apparaît donc quelques touches de couleur. Voilà, donc ça c'est le travail de Sandrine Perron qui tend vraiment beaucoup vers l'abstraction. Autre artiste également présente dans cette exposition, Chimena de Leon Lucero, qui est une artiste argentine qui habite et travaille à Morlaix et qui, elle, travaille beaucoup sur les formes organiques et minérales, mais pour parler de l'humain. Effectivement, on a devant nous donc des tableaux en noir et en rouge, sur lesquels apparaissent des sortes de plantes un peu vénéneuses. On pourrait imaginer également des grands insectes. Et en fait, c'est une métaphore un petit peu des rapports humains. Parce qu'on voit que ces plantes, alors ici, vous voyez, il y a une sorte de grande fleur grenat avec une petite forme qu'on pourrait croire être un insecte. Et ces deux formes vivantes-là symbolisent un petit peu le dialogue entre êtres humains. Ce qu'on retrouve également dans sa deuxième série ici, où on peut imaginer à la fois des rochers ou des êtres vivants comme des baleines qui discutent. Des baleines qui discutent entre elles, en fait, des formes vivantes qui discutent entre elles. Et ça aussi, c'est la communication, les rapports humains, la difficulté dans les rapports humains et dans le dialogue avec l'autre, qui est représenté. Voilà. Un trait tout en finesse, vous l'observerez. C'est vraiment un très très beau travail.
Les traits sont très fins.
Très très fins. Ça demande des heures et des heures de travail à la pointe sèche. Très beau travail de Chimena. Quasiment face à face, ici nous avons Kwang Soo Kim, qui est une artiste coréenne installée à Brest, rue Victor Hugo, la galerie 66. Alors elle, pareil, elle est inspirée également par la nature. La nature, on est également là entre figuratif et abstraction. Ce qu'on a devant nous, ce sont des œuvres très colorées avec des couleurs très intenses, du bleu outre-mer, du bleu cobalt, du jaune d'or, également du noir, du rouge vif, et également donc une référence à la nature à travers des feuilles ciselées. des squelettes de feuilles, du corail également, du tissu également. Alors le tissu, on pourrait croire qu'elle l'a, je dirais, presque imprimé directement, hein, mais non, elle a tout dessiné. Elle a tout dessiné.
Ça doit demander beaucoup de travail.
C'est énorme, énorme. Et c'est une artiste qui, comme Thomas, qui, comme beaucoup d'autres artistes graveurs, utilise différentes techniques. Hein. Ils font un petit peu tous leur cuisine. Mm-hmm. Donc là, on aura à la fois de la taille directe, donc avec des instruments qu'on a vus tout à l'heure, pointe sèche, burin, etc., mélangé avec de l'aquatinte, donc un travail de l'acide aussi, ce qu'on D'accord. appelle de la taille indirecte, en fait. Voilà. Donc chacun un petit peu sa recette, hein, Thomas, et voilà ce qui donne des choses assez extraordinaires comme ça. Voilà.
Le travail de Thomas Godin est inspiré de ses voyages ainsi que de l'horizon de sa Bretagne natale. Ses œuvres lui ressemblent, fragiles et puissantes à la fois, délicates et brutes. Un monde onirique, un cri de liberté. Le monde d'un artiste voyageur qui cherche l'horizon loin devant.
Je m'appelle donc Thomas Godin, je suis artiste, peintre graveur. Donc mon travail. Donc je suis installé à Landerneau, j'ai un atelier galerie dans la rue piétonne de Landerneau. Et voilà, mon travail, c'est de la gravure majoritairement, mais mon travail, la gravure a une approche un petit peu plus picturale que la moyenne, on va dire. Que la moyenne, enfin, que la gravure de manière générale. Et bah, voilà, vous avez mon travail autour de vous, c'est plus. C'est assez coloré, je veux dire.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos œuvres, si vous en avez une préférée en particulier ?
Alors, eh ben, je les aime toutes, elles ont toutes une histoire. Bon, là, si on va sur les cercles, là, sur, là on est. L'histoire, elle a commencé il y a quelques années. Donc, elle n'est pas ici. Enfin, c'est une série inspirée du Bénin. Il y a quelques années. On a, comment dire, on a mélangé la musique vaudou, la musique bretonne, le jazz, avec un ami donc de Saint-Paul-de-Léon, un béninois, qui est petit-fils du roi du Dahomey. Le Dahomey, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est l'ancien nom du Bénin. Et donc on a été invité par le ballet du Bénin à faire une tournée dans tout le pays. Et ce sont ces cercles-là, ce sont des bijoux de cérémonie vaudou.
Okay.
Ils ont autour du cou à l'origine. Et donc c'est un symbole universel qu'on retrouve dans toutes les cultures, enfin dans les arts premiers, que ce soit chez les Celtes, en Afrique, en Océanie, en Asie, enfin partout, enfin, le disque de jade, enfin, c'est un symbole universel. Et quand je suis rentré de ce voyage, je sais pas, j'ai eu envie de faire quelque chose là-dessus, enfin, j'avais la musique qui tournait en boucle en tête, tout simplement vu qu'on jouait du matin au soir, du soir au matin, c'était. Et donc j'ai fait ce disque, enfin une réinterprétation d'un disque de cérémonie justement, et j'ai continué. Donc j'ai présenté cette série donc à une exposition aux Philippines, en Asie, au centre du pays, et ça leur a immédiatement parlé. Et donc j'ai continué la série en allant un petit peu à la rencontre des là en l'occurrence c'était les gitans des mers, donc les peuples sans terre. Donc ils vivent sur leurs bateaux, qui naviguent dans l'archipel. C'est un pays archipélique, les Philippines, 7200 îles. Et donc ces gitans des mers, en mer en fait, leur mort en terre, donc sous la mer. Et c'est toute une culture pareil. Enfin, c'est une partie, voilà, une culture animiste, une culture voilà, polythéiste. Et où on retrouve ces symboles aussi. C'est voilà, je sais pas, ça me parle tout simplement. Quoi. C'est lié à mon histoire, à mes voyages, aux gens que j'ai rencontrés.
Et... Vous vous inspirez de vos voyages pour réaliser vos œuvres.
Ouais, toujours, c'est ouais. Super. Là, c'est deux annuels, ça veut dire des hauteurs, d'en haut, en breton, on va dire.
Pourquoi est-ce que vos œuvres sont nommées en breton ?
Parce que je le parle, je suis proche de cette langue, cette culture. C'est
pour
moi, c'est important, quoi. C'est vain, toutes les histoires. C'est bien beau de voyager, de prendre un week-end pour aller à l'autre bout de l'Europe ou 15 jours pour aller en vacances à l'Incloud.
C'est une attache à la Bretagne.
C'est une attache à la Bretagne. Et c'est quand je parle de voyage à l'Incloud, de machin, tout ça, c'est vain, quoi. Je veux dire, le vrai voyage, il commence ici et il se continue ailleurs, quoi, et inversement. Et c'est-à-dire que les deux se répondent pour moi. Et c'est un voyage, c'est pas partir en vacances. On part à l'autre bout du monde, voilà, on s'imprègne, on regarde. Et au travers du prisme de ce qu'on connaît ici. Et inversement, quand je suis ici, je pense à là-bas. Et il faut une attache profonde, quoi. Il faut être enraciné très profond. Et on ne peut pas raconter de vraies histoires, d'histoires profondes, d'être sincère. C'est la forme sans le fond.
Comment est-ce que vous réalisez vos œuvres ?
Alors, j'ai pas vraiment de règles. Pour moi, c'est juste mon regard, mais la gravure, souvent, c'est. Voilà, c'est bourré de conventions, de règles. C'est pas pour tout le monde, évidemment, pas ce qu'il y a autour de nous, mais pas les autres graveurs non plus. Mais bon, c'est souvent très classique. On va faire une école où, voilà, faut pas sortir des lignes, quoi. Faut pas sortir du cadre. Et moi, j'en ai pas du tout, quoi. C'est des mélanges de techniques de qui viennent pas de la gravure, mais qui en deviennent au final avec du mélange de sucre, de poudre, de tout ce qui me passe sous la main. Au final, quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête, je veux une matière, je veux un trait, une poésie quelconque à un endroit, je vais tout simplement chercher. Et donc, je sais pas si. Bon, là, pour celle-ci, vu qu'on en parlait, c'est tout simplement je suis pas le seul, j'ai pas inventé la poudre. Je pense que chaque graveur a sa cuisine, de toute façon. Pour moi, là, c'est des mélanges de colle, de sucre. Je vais venir peindre, faire sécher au décapeur thermique, etc. Épargner, faire des réserves pour faire en sorte que l'acide creuse partout autour, plutôt que de vernir une plaque et de venir faire mon dessin. Gratter de vernis.
D'accord.
Je vais faire l'inverse en fait, je la remets. C'est là où rentre l'aspect épiphain. C'est-à-dire, le travail du peintre, c'est que je fais mon sujet, je viens de peindre mon motif directement sur la plaque au lieu d'enlever, au lieu de gratter comme un jeu à gratter au final.
Mmh. C'est un processus qui est long, enfin, ça dépend selon les gravures. Mais...
C'est très souvent oui. Après, il y a des coups de chance, c'est des hasards heureux, on va dire. Mais. Là, par exemple, pour celle-ci, voilà, on va dire de Ralloaru, c'est à la fois une sculpture, une peinture et une gravure. Parce que on a le sujet de la forme de la plaque donc, que j'ai découpée. Et donc, j'ai commencé sur une plaque qui faisait peut-être 1m50, et au final, elle s'est réduite comme peau de chagrin parce que je n'avais pas la forme que je voulais, je redécoupais, je repassais jusqu'à avoir quelque chose que je trouvais harmonieux, je ne sais pas qui me. Voilà, je sais que c'est là, quoi. Je pourrais pas vraiment l'expliquer, c'est comme ça. Mmh. Et donc, voilà, le premier travail, c'était ça, c'était d'avoir la forme voulue, que la plaque ait la forme voulue. Ensuite, j'ai la gravure, je veux dire, les strates de gravure, les différents bains d'acide successifs qui vont permettre d'avoir, si j'agrandis cette plaque, enfin, si je fais une coupe transversale, je la coupe en deux, je fais une coupe transversale et j'agrandis. Et dans cette plaque, je vais avoir 10 ou 15, on va dire, strates différentes profondeurs.
D'accord.
Et donc, si tu veux, on va commencer, je vais avoir un trait à 1 cm, je vais en avoir un à 5, je vais revenir en avoir un à 3, et ainsi de suite. Et donc, en dents de scie, comme ça. Et plus le creux sera profond, plus il va garder d'encre, plus je pourrai mettre de couleur. Donc,
d'accord.
Là, c'est la gravure. Et ensuite, une fois que j'ai cette plaque-là, que j'en suis content, que j'ai fait des tirages, tu vois, je l'ai ancré, je l'ai passé sous presse pour voir voilà, si l'harmonie est bonne, si ma couleur vient l'aspect vraiment le travail du coloriste et du peintre. Parce que je vais venir avec des encres à l'huile, des encres à l'eau, des encres très sèches, des encres à l'huile émulsifiées. Je vais faire vraiment ma cuisine, jouer comme en peinture classique. En peinture classique, on a ce qu'on appelle le gras et le maigre, enfin, la peinture à l'huile, la peinture à l'eau. Peinture écrite qui permettent qui ne se mélangent pas au final, qui permettent d'avoir des.
C'est un peu libre, mais c'est aussi minutieux, quoi. Enfin,
c'est ça.
C'est compliqué, quoi. Faut trouver la.
L'équilibre.
Vous savez où vous allez quand.
J'ai une idée, j'ai un monde en tête, j'ai quelque chose, un univers, quelque chose que je veux. Voilà. Et les réponses viennent aussi en évoluant, quoi, au fur et à mesure du travail, quoi. Je, dans la mesure où en plus c'est pas figuratif, c'est entre les deux, quoi. Il y a certaines gravures, vous avez vu, voilà, on peut reconnaître des formes, des choses. Et je sais que je veux cet esprit, mais vous dire si ça va être ici, là, là-bas.
Oui. Faut pas trop prévoir.
Non, ça me donne les réponses au fur et à mesure, et puis c'est à l'instinct, quoi. Je J'ai pas vraiment de réponse précise à apporter, quoi. Je m'en excuse. Même pas.
Ah, c'est ça le matériel, d'accord.
Oui, tu vois.
Avec des couteaux aussi.
Mais c'est pour mélanger mes encres.
Ah, d'accord.
Puis vu que je suis pas très soigneux avec mes outils, tu vois, il y a plein de peintures aussi.
Donc ça, c'est la plaque à la base.
Oui.
Et après, vous rajoutez la pigmentation.
C'est ça. Et tu vois, tu passes ça sur du papier humide. Donc le papier doit être... c'est du papier en fibre de coton que tu laisses tremper dans de l'eau. Et pour que les fibres se gorgent d'eau, qui deviennent plus tendres. Et une fois passé sous presse, donc tu vois, tu mets ta plaque, le papier par-dessus. Mm-hmm. Et quand tu passes sous les rouleaux de la presse, donc c'est, tu vois, une plaque, deux rouleaux qui viennent écraser le papier. Et le papier vient épouser toutes les formes. On dit qu'il est amoureux de la plaque. Il vient chercher de l'encre au fond des creux. Donc tu vois, une estampe.
Voilà. D'accord.
Donc là, le masque, c'est celui que vous avez vu à l'instant.
Oui, oui, oui.
La plaque vierge, du vernis, les pointes qui permettent de gratter le vernis, forme. Tu vois.
Ouais.
Là, tu vois, le truc jaune, la petite poupée jaune, c'est donc ce qu'on appelle de la tarlatane. C'est de la gaze apprêtée, comme, tu vois, les compresses.
Oui.
Eh bien, que tu roules, et tu fais une petite poupée avec, le chiffon, là, et ça va te permettre d'absorber l'encre et de l'étaler sur la plaque.
Ok.
On en fait des costumes de théâtre aussi, avec cette étoffe-là, tu vois.
D'accord. Ouais, il y a plein d'outils différents, en fait.
Ouais.
Vous avez des pointes sèches. Parmi les instruments utilisés, il y a également des gouges et des burins. Donc les pointes sèches, c'est vraiment quasiment une pointe de stylo, hein. C'est ce qui va être le plus fin. La gouge et le burin, on va dire que ça va faire des traits quand même un peu plus larges, en fait. Voilà. Ça retirera plus de matière.
Mm-hmm, d'accord.
Là, le berceau, ça permet, en fait, de, dans un mouvement comme ça de va-et-vient, puisque le bout est arrondi, de strier entièrement le fond de la matrice, le fond, de, par exemple, de cuivre ici. Et c'est ce qui est utilisé notamment dans la technique de la manière noire. Enfin bref, voilà. Donc c'est un des outils en fait qui est utilisé également en gravure.
Il y a des œuvres qui nous ont interpellés là-bas. Est-ce qu'on peut aller les voir?
Oui, bien sûr. Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie?
Béage glace, le voyage bleu.
Le voyage,
ou voyage vert, mais ça.
Et qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Eh bien, moi, cette gravure-là, cette série BH, c'est un peu le début de l'aventure. Je me répète souvent avec ça, mais c'est vrai que c'est la première gravure où je racontais une histoire, et une vraie histoire. Et celle-là, je l'ai envoyée au bout du monde, au Japon, à un grand prix de gravure. Mm-hmm. J'ai été primé, ça a permis à mes gravures de faire Tokyo, Kyoto, Osaka dans des galeries, et moi, me donner du courage pour me lancer, quoi. Mais comment dire, là, ouais, béage, c'est après un voyage aux Philippines, un premier voyage. Je suis allé voir un très bon ami à moi, et en rentrant, ben voilà, j'avais un peu le mal du...
Le mal du pays.
Le mal du pays, du mien et de l'autre. et en fait, ben ouais, j'ai fait mon île, j'ai fait une île au loin, là, avec ma mer, mon ciel, mes rochers, enfin... Ce que je voyais, quoi, ce que j'en avais retenu, quoi. Et pour moi, c'est plus... Je travaille jamais sur photos, sur croquis, sur quoi que ce soit. Mmh. C'est toujours direct, sans filtre. Parce que enfin, je trouve que c'est plus... Je trouve ça plus puissant, plus...
Plus imprégnant.
Plus imprégnant, plus poétique, plus... Mmh. Plus sincère, je sais pas, de le faire au travers de ta mémoire, de ton ressenti, quoi. Et donc, c'est un retour de... Un retour de voyage qui a changé ma vie à jamais, hein. Vraiment à tous les points de vue, parce que j'en suis tombé amoureux et que l'aventure a continué. Je suis parti exposer là-bas, j'y retourne dans quelques mois. Cette gravure qui racontait cette expérience, au final, m'a permis de d'être là aujourd'hui.
Oui, voilà.
Déjà.
C'est déjà super bien. Vous voyagez beaucoup.
Bah, beaucoup, disons que. Ouais, après ça s'étale sur plusieurs années, mais oui, c'est vrai que c'est... Bah, là, je retourne. Je pars exposer à Mani cette fois-ci, parce que justement on est à côté de Pinatubo, c'est une part de l'histoire, ça. Je suis parti 2 mois et demi de l'année dernière aux Philippines pour monter une première expo et organiser, on va dire, un petit peu l'avenir, quoi, ce que je veux faire dans les années à venir. Et
j'ai exposé à Cebu et après mon expo à Cebu City. Donc c'est un pays archipélique, comme je le disais tout à l'heure. Oui. 7200 îles. Vous avez Manille, donc qui est la capitale au nord. Ensuite, il y a Cebu City qui est au centre de l'archipel. Et donc on va aller vers Davao, ensuite sur l'île de Mindanao au sud, quoi. Donc, les trois grandes villes, on va dire. Cebu, c'est en plein centre. Et après mon expo, on m'a prêté une maison pas loin du Pinatubo. Et le Pinatubo, c'est un volcan qui a fait éruption dans les années 90 et qui a changé tout le paysage du pays.
C'est pour ça qu'il y a ces couleurs rougeâtres un peu.
Ouais, et j'étais entouré d'arbres, donc c'est en gros. Enfin, c'est toute l'histoire, mais. J'étais entouré d'arbres, donc j'ai fait mon panache de fumée en forme d'arbre, et ça, c'est le bout du continent eurasien. Et voilà, mais enfin, chacun voit ce qu'il veut. L'idée, c'est qu'il y a cette place pour tout le monde.
Voilà.
Et donc, j'y retourne. Donc, l'expo, ça leur a bien plu. Et là, je compte partir en train.
En train ?
Ouais.
C'est long, un petit peu.
C'est un peu long, ouais. C'est un peu long, mais bon, c'est une bonne excuse.
Oui.
C'est une bonne excuse parce que. Voilà, encore une fois, c'est pas opportuniste de dire ceci, cela, parler d'écologie. C'est vrai que. On peut toujours lier l'utile à l'agréable si on a du temps.
Mm-hmm.
Voilà, si on a du temps. C'est toujours le dénominateur commun. Quoi. Et je compte envoyer mes gravures par bateau, donc ça met du temps.
Ouais.
Et moi, prendre ce que je voulais faire l'année dernière déjà, mais y aller en traversant la Russie, enfin traversant Sibérie, Mongolie, Chine.
D'accord.
Avec le transsibérien, transmongolien,
oui.
transmanchourien. Et donc je compte faire ça. Ça me permettra de nourrir autre chose.
De découvrir quoi.
Oh là là, oui. Ah ouais, parce
que je suis la Bretagne.
Ouais. C'est le grand écart là entre Bretagne, Sibérie, Philippines.
Et vous avez regardé un petit peu les œuvres des autres artistes qui sont exposés.
Ouais, j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je trouve super la diversité de. Donc les organisatrices sont vraiment bonne pioche, j'ai envie de dire, parce que d'un côté, il y a du très figuratif au burin. De l'autre, on va avoir plus de la gravure sur bois, sur lino. Après, on va avoir de l'eau forte également, fonction qui colle au fond. Et c'est varié, c'est. En plus, au-delà des techniques différentes, c'est des univers très différents.
Totalement différents.
Ouais. Et je trouve ça bien parce que parfois, dans les expos de gravure, on peut tomber sur des choses un petit peu. Qui sont très bien, je veux dire, mais qui mériteraient un peu plus de diversité.
Mm-hmm.
Donc là, c'est.
Il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts, et c'est bien. C'est bien.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses.
C'est bien. Mais n'hésitez pas à passer à me rendre visite à Landerneau.
Bah oui, il n'y a pas de souci. Ce sera avec joie.
Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U. Merci beaucoup au personnel de la médiathèque du Relais Carillon ainsi qu'à Thomas Gaudin. N'hésitez pas à vous y rendre à l'exposition Empreinte jusqu'à dimanche pour profiter des derniers jours de l'exposition. C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci aux deux musiciens du groupe The Mad Dogs, Thomas et Yuen. Merci à eux d'être venus présenter leur groupe et d'avoir joué en live pour Radio U. Retrouvez toutes les informations du groupe sur leur Facebook. Merci également à Eva pour son reportage et à Thomas Gaudin d'avoir répondu aux questions d'Eva. L'exposition Empreinte à la médiathèque du Relais Carillon est à découvrir jusqu'à dimanche 15 décembre. Ce soir, la technique, c'était Vincent. Grand merci à lui et à l'organisation pour le live de The Mad Dogs. Vous trouvez cette émission en podcast sur le site de Radio U, radio-u.org, ainsi que tous les autres programmes de la radio. C'est vous qui êtes terminé pour cette semaine. Retrouvez votre quotidienne préférée dès lundi en compagnie de Marion. Enfin, Radio U sera demain après-midi de 16h à 18h en plateau, en direct du festival No Border. Vous pourrez vous y retrouver dans le village de No Border. Bonsoir à toutes et à tous sur Radio U 101.fm à Brest.